Allô, allô, ici Ciné Herri.
Nous sommes le 9 juin 1937 et le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, sort en France sur les écrans. Il connaît d'emblée un immense succès critique et commercial. On doit alors déjà au fils d'Auguste Renoir un grand nombre de chefs-d'œuvre comme La Chienne, La Nuit du Carrefour, Boudu sauvé des eaux, Le Crime de Monsieur Lange, Partie de campagne, La vie est à nous ou bien encore Les Bas-fonds. Pourtant, le réalisateur rencontre beaucoup de difficultés pour financer le film et il ne trouvera finalement un producteur que grâce au soutien de la vedette principale, Jean Gabin. Jean Gabin connaît déjà la consécration. Le public de l'époque l'a admiré auparavant dans des films comme La Bandera, La Belle Équipe, Pépé le Moko et Les Bas-fonds, où il partage la vedette avec Louis Jouvet. Autant d'œuvres dans lesquelles Gabin incarne des héros d'origine populaire, au destin tragique et romantique. Il tournera encore avec Renoir La Bête humaine en 38 et French Cancan en 55. Mais outre Jean Gabin, La Grande Illusion bénéficie d'une distribution prestigieuse avec des comédiens au sommet de leur carrière. Marcel Daliot, Pierre Freinet, Eric von Stroheim, Dita Parlo, Julien Carrette, Gaston Modot et Jean Dasté. Le titre du film est emprunté au livre homonyme publié en 1910 par l'écrivain et homme politique britannique Norman Angell. Cet auteur, prix Nobel de la paix en 1933, défendait dans cet essai la thèse que les guerres n'apportent aucun avantage, même aux vainqueurs. L'action du film se situe pendant la Grande Guerre. Dans un camp allemand, elle met en scène des militaires français, prisonniers de tous grades et issus de différents milieux sociaux. Ces derniers routinisent leur vie quotidienne faite de petites combines et de joyeuses camaraderies. Mais surtout, ces hommes ne cessent de multiplier les tentatives d'évasion qui échouent les unes après les autres. Ils sont finalement transférés en pleine montagne dans un camp fortifié dirigé par le général von Ruffenstein où l'aristocrate français le capitaine de Boieldieu retrouve cette vieille connaissance. Compagnon de route du Parti communiste français, Jean Renoir montre à travers cette œuvre que les solidarités entre personnes de même classe sociale restent puissantes malgré les antagonismes entre États. Elles sont transnationales et subsistent même en temps de guerre. Ainsi, bien qu'il soit officier, membre de deux armées en guerre, l'aristocrate allemand von Ruffenstein et l'aristocrate français le capitaine de Boieldieu appartiennent à la même classe sociale. Ils partagent la même éducation, les mêmes valeurs, le même univers mental. Les deux aristocrates se respectent, fraternisent et deviennent amis. Ceci dit, lorsque l'officier français de Boieldieu se sacrifie en montant un stratagème permettant à deux de ses compatriotes de s'enfuir et de gagner la Suisse, lorsqu'il transgresse les règles du camp, il est purement et simplement abattu par von Ruffenstein. Certes, l'Allemand souffre d'avoir tué son ami, mais le soldat s'exécute et exécute l'officier français. La guerre reprend tous ses droits et nul n'échappe à son engrenage. La logique guerrière des États l'emporte sur les affects et les émotions des hommes. Comme l'a bien montré Rousseau, la guerre, c'est d'abord et avant tout l'affaire des États. Mais il ne faudrait surtout pas en conclure, comme certains critiques l'ont fait au lendemain de la guerre, que cette amitié entre soldats français et allemands aurait été annonciatrice du régime de Vichy. Nous sommes en 1937 et il s'agit là avant tout d'un film pacifiste. Pacifiste et non antimilitariste. Un film pacifiste mais très désenchanté. En effet, lorsque Jean Gabin déclare dans une de ses dernières répliques « Il faut bien qu'on la finisse cette putain de guerre en espérant que c'est la dernière », Jean Renoir, percutant de lucidité, fait dire au juif Rosenthal « Ah, tu te fais des illusions !» Nous sommes en 1937 et en France, une coalition de partis de gauche, le Front Populaire, gouverne le pays avec comme président du Conseil Léon Blum. Le 21 juin, ce dernier présente sa démission et est remplacé par le radical Camille Chautemps. Mais rappelé par le président Lebrun, Blum reviendra constituer un éphémère et ultime gouvernement avant que le Front Populaire ne prenne définitivement fin. Nous sommes en 1937 et en Espagne, la guerre civile fait rage depuis un an. Les nazis, qui sont au pouvoir en Allemagne déjà depuis 4 ans, ont violé en 1936 le traité de Versailles en remilitarisant la Rhénanie. Par ailleurs, ils ont constitué le fameux axe Rome-Berlin avec l'Italie fasciste qui a annexé l'Éthiopie. Enfin, ils ont signé le pacte anti-Comintern avec le Japon. Le 12 mars 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Nous sommes en 1939 et La Grande Illusion est nommée aux Oscars dans la catégorie Meilleur film, un fait rarissime pour un film étranger. En revanche, il est censuré en Italie et en Allemagne, avant d'être bientôt interdit en France pour, je cite, son absence d'idéologie patriotique. Nous sommes le 1er septembre 1939 et l'Allemagne envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre dès le 3 septembre. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Jean Gabin est mobilisé dans la Marine nationale. Nous sommes en 1940 et au mois de juillet, Jean Renoir réussit à s'expatrier aux États-Unis grâce au réalisateur Robert Flaherty, qui lui a obtenu un visa de travail. Nous sommes en 1941 et Jean Gabin part lui aussi pour les États-Unis après avoir refusé de tourner pour les Allemands. À Hollywood, il contribue à la réalisation de deux films de propagande qui soutiennent l'effort des Alliés. Nous sommes en 1943. Jean Gabin s'engage dans les forces navales libres du général de Gaulle. Il sert comme chef de char dans la deuxième DB du général Leclerc. Puis, à la fin de la guerre, il investit avec son escadron le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Il recevra la médaille militaire et la croix de guerre. Nous sommes en 1945 et la Deuxième Guerre mondiale s'achève avec la capitulation sans condition du Troisième Reich et celle de l'Empire japonais, frappé par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette guerre n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle a mobilisé plus de 100 millions de combattants, mis aux prises plus de 60 États et fait plus de 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Avec ce conflit, la grande illusion a cédé la place à une réalité insoutenable.